Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika.
Bonjour, 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 auditrices et auditeurs de Radio Galère. Nous sommes mercredi 22 mai à Marseille avec Livres et Amis, Françoise et Dominique au micro, Louise à la technique. Voilà, il fait beau, mais il y a du vent. Et en attendant les festivals de l'été en plein air, on peut encore aller dans les salles, au cinéma, au théâtre et voir ou entendre les participations au festival, justement, mais à l'intérieur. Alors, à partir de ce soir et jusqu'à dimanche, c'est le festival Oh, les beaux jours. Oh, les beaux jours, beaux jours de lecture, de rencontres, de débats, d'animation musicale, puisque Oh, les beaux jours, c'est un festival de littérature. Ça commence donc aujourd'hui à la Citadelle et ça se poursuit, je l'ai dit, jusqu'à dimanche, à la Criée, au Mucem, au Conservatoire, à l'Alcazar, avec des informations dans les bibliothèques sur toutes ces rencontres qui sont en entrée libre. Et il y a aussi des spectacles qui, eux, sont payants, mais il y a beaucoup de rencontres et de débats auxquels vous pouvez assister. Donc, le site, c'est OH Les Beaux Jours, Marseille 2024. Oh, les beaux jours en un seul mot, si vous voulez vraiment taper ça, mais ça vient très vite sur votre fournisseur d'accès Internet. Alors, pour nos lectures, je vous avais laissé avec Livres et Amis la semaine dernière avec les idées fausses sur les religions. Ben, les idées fausses sur les religions, nous y reviendrons. Les idées fausses, il y en a beaucoup, pas seulement sur les religions. Mais aujourd'hui, nous allons poursuivre pendant que nos frères et sœurs de Kanaky combattent l'aliénation coloniale, nous allons poursuivre la dénonciation de l'aliénation par le travail. J'avais sur ma table depuis quelques semaines L'établi de Robert Linhart qui évoque la souffrance au travail et les difficultés dans l'industrie, les luttes aussi, comme nous l'avons déjà évoqué avec par exemple Joseph Pontus dans À la ligne ou avec les jeunes qui travaillent chez McDo ou à l'heure actuelle les camarades en grève chez Pamar. Comme ils l'ont été chez Lipton ou dans les grands hôtels. Vous avez peut-être vu le film sorti récemment qui s'appelle Petite Main et qui justement parle de cette aliénation au travail des personnels des grands hôtels. Alors, la semaine prochaine, nous continuerons avec l'aliénation au travail, d'ailleurs, avec un livre d'un cousin, entre guillemets, d'origine italienne, Robert Picamiglio. On lira Chronique des années d'usine. Et en attendant, donc, aujourd'hui, c'est L'établi de Robert Linhart. Picamiglio, il était un peu cousin aussi de Eri De Luca, dont on a lu des nouvelles, et qui a passé une grande partie de sa vie, justement, établi dans les usines italiennes. Robert Linhart, lui, il s'est établi chez Citroën. Elle choisit le roi, mais dans tous les cas, c'est bien cette dénonciation commune du travail à la chaîne, de cette aliénation du travail industriel taylorisé de la deuxième moitié du XXe siècle, avec son cortège de brutalité, de racisme, d'exploitation de l'homme ou de la femme pour le profit maximal des géants de l'industrie. Alors, même si les ateliers sont maintenant robotisés, les chaînes continuent et la souffrance au travail continue. On l'avait vu avec Joseph Pontus, on l'avait vu par exemple dans les abattoirs, les conserveries, etc. Alors, Robert Linhart et l'établi. Eh bien, Robert Linhart, il est né en 1944 à Nice. Ses parents juifs étaient réfugiés dans l'arrière-pays niçois. Ils se cachaient pour échapper à l'armée nazie. Et en fait, pendant l'enfance, dans la famille, le souvenir des persécutions est resté très vif. Robert Linhart a donc vécu une enfance un peu bouleversée et il est devenu étudiant engagé au Parti communiste d'abord, puis avec les étudiants de Louis Althusser à Normale supérieure, il s'est engagé dans les mouvements maoïstes. Il a été un des fondateurs de la gauche prolétarienne et il a participé donc tout à fait activement au mouvement des établis, ces intellectuels qui sont allés en usine retrouver la condition ouvrière et qui ont tenté d'organiser les ouvriers au sein de groupes de lutte maoïste. Robert Linhart, donc, il s'est établi chez Citroën en 1968-69, à partir de septembre 68. Il a d'ailleurs organisé une grève importante contre le patronat de Citroën, puisque cette entreprise refusait et a continué de refuser pendant plusieurs mois d'appliquer les accords de Grenelle qui avaient été signés en juin 1968. Dans un premier temps, nous allons voir par nos lectures l'arrivée à l'usine et la difficulté du travail, la difficulté du travail à la chaîne, du travail dans les ateliers. Mais vous allez voir, son écriture est superbe, à la fois réaliste et fluide. Et tout ce qu'il décrit souligne vraiment bien cette aliénation à la fois physique et mentale du travail à la chaîne. On pense aussi, tout à l'heure, enfin je vous disais qu'on parlerait la semaine prochaine de Picamilio, on a déjà vu Harry De Luca. On pense aussi, en lisant les textes de Robert Linhart, on pense aussi à Céline. Bon, Céline, bien sûr, proscrit pour ses prises de position collaboratives, sioniste. Et quand même, Céline, un des grands auteurs du XXe siècle, quand il décrivait, par exemple, les conditions de travail chez Ford à Détroit. Alors, revenons pour l'instant avec Robert Linhart à l'établi et revenons en particulier à son embauche. C'est Françoise qui va nous lire ça.
Me voici donc à l'usine, établi. L'embauche a été plus facile que je ne l'avais pensé. J'avais soigneusement composé mon histoire, commis dans l'épicerie d'un oncle imaginaire à Orléans, puis manutentionnaire un an, certificat de travail de complaisance, service militaire dans le génie à Avignon. J'ai récité celui d'un camarade ouvrier de mon âge et prétendu avoir perdu mon livret. Pas de diplôme, non, même pas le BEPC. Je pouvais passer pour un Parisien d'origine provinciale perdu dans la capitale, et qu'une ruine familiale contraint à l'usine. Je répondis brièvement aux questions, taciturne et inquiet. Ma piètre mine ne devait pas détonner dans l'allure générale du lot des nouveaux embauchés. Elle n'était pas de composition. Le laminage des convulsions de l'après-mai 68, un été de déchirement et de querelle, était encore inscrit sur mes traits, comme d'autres, parmi mes compagnons, portaient la marque visible de la dureté de leurs conditions de vie. On n'emmène pas large quand on vient quémander un tout petit emploi manuel, juste de quoi manger s'il vous plaît, et qu'on répond timidement rien aux questions sur les diplômes, les qualifications, sur ce qu'on sait faire de particulier. Je pouvais lire sur les yeux de mes camarades de la file d'embauche, tous immigrés, l'humiliation de ce rien. Quant à moi, j'avais l'air suffisamment accablé pour faire un candidat ouvrier insoupçonnable. Monsieur l'embaucheur a dû penser, tiens, un demi-campagnard, un peu ahuri, c'est bon ça, ça ne fera pas d'histoire. Et il m'a donné mon bon pour la visite médicale. Au suivant. D'ailleurs, pourquoi l'embauche d'un ouvrier à la chaîne serait-elle une opération compliquée ? Idée d'intellectuel, habitué à des recrutements complexes, des étalages de titres, des profils de poste. Ça, c'est quand on est quelqu'un. Mais quand on est personne, ici, tout va très vite. Deux bras, c'est vite jaugé. Visite médicale éclair, avec la petite troupe d'immigrés. Quelques mouvements musculaires, radio, pesage. Déjà l'ambiance, mets-toi là, torse nu. Dépêchez-vous là-bas. Un médecin qui fait quelques croix sur une fiche, ça y est, bon pour le service Citroën. Au suivant. Moment favorable. En ce début de septembre 1968, Citroën dévore de la main-d'œuvre. La production marche fort et on comble les trous que le mois d'août a creusé dans l'effectif des immigrés. Certains ne sont pas revenus de leur congé lointain, d'autres rentreront en retard et apprendront désespérés qu'ils sont licenciés. On s'en fout de tes histoires de vieille mère malade, du balai, déjà remplacé. On remplace sec, de toute façon, Citroën travaille dans l'instable, vite entrée, vite sortie. Durée moyenne d'un ouvrier chez Citroën, 1 an. Un turnover élevé, disent les sociologues. En clair, ça défile. Et pour moi, pas de problème, happé par la fournée entrante. J'ai quitté le bureau d'embauche de Javel le vendredi, muni d'un papier, affecté à l'usine de la Porte de Choisy. Présentez-vous lundi matin, 7h, à l'agent de secteur. Et, ce lundi matin, les deux chevaux qui défilent dans l'atelier de soudure.
L'atelier de soudure, c'est donc là que Robert Linhart se retrouve. Et il va nous parler des différents postes, enfin il va nous décrire de façon très précise en fait les différents postes sur lesquels il va travailler pour nous montrer précisément cette aliénation de la chaîne et aussi la difficulté du travail sur la chaîne. Voilà, donc on a entendu parler de Javel, on a entendu parler de l'usine de Choisy, à l'époque il y avait aussi Levallois. Ces usines ont disparu au profit de l'énorme usine Peugeot-Citroën d'Aulnay. Je pense qu'à Aulnay, ce n'est pas la joie non plus, même si ils ont beaucoup licencié ces dernières années parce qu'effectivement, les chaînes se sont robotisées. Même si les chaînes se robotisent, on l'a vu avec Joseph Pontus, le travail reste souvent épouvantable et on va en avoir justement des visions très précises, comme on disait, avec Robert Linhart à l'usine de Choisy. Montre-lui, Mouloud. L'homme en blouse blanche, le contremaître gravier, je l'attendrai plus tard, me plante là et disparaît, affairé vers sa cage vitrée. Je regarde l'ouvrier qui travaille, je regarde l'atelier, je regarde la chaîne. Personne ne dit rien, Mouloud ne s'occupe pas de moi. Le contremaître est parti, j'observe, au hasard. Mouloud, les carcasses de deux chevaux qui passent devant nous, les autres ouvriers. La chaîne ne correspond pas à l'image que je m'en étais faite. Je me figurais une alternance nette de déplacement et d'arrêt devant chaque poste de travail. Une voiture fait quelques mètres, s'arrête, l'ouvrier opère, la voiture repart, une autre s'arrête, nouvelle opération, etc. Je me représentais la chose à un rythme rapide, celui des cadences infernales dont parle Lettracte. La chaîne. Les mots évoquaient un enchaînement saccadé et vif. La première impression est au contraire celle d'un mouvement lent mais continu de toutes les voitures. Quant aux opérations, elles me paraissent faites avec une sorte de monotonie résignée, mais sans la précipitation à laquelle je m'attendais. C'est comme un long glissement et il s'en dégage au bout d'un certain temps une sorte de somnolence, scandée de sons, de chocs, d'éclairs, cycliquement répétés mais réguliers. L'informe musique de la chaîne, le glissement des carcasses grises de tôle crue, la routine des gestes, je me sens progressivement enveloppée, anesthésiée, le temps s'arrête. Trois sensations délimitent cet univers nouveau. L'odeur, une âpre odeur de fer brûlé, de poussière de ferraille. Le bruit, les vrilles, les rugissements des chalumeaux, le martèlement des tôles et la grisaille. Tout est gris. Les murs de l'atelier, les carcasses métalliques des deux chevaux, les combinaisons et les vêtements de travail des ouvriers, leur visage même paraît gris, comme s'il s'était inscrit sur leurs traits le reflet blafard des carrosseries qui défilent devant eux. L'atelier de soudure, où l'on vient de m'affecter, « Mettez-le au 86 », avait dit l'agent de secteur, « est assez petit. » Une trentaine de postes, disposés le long d'une chaîne en demi-cercle. Les deux chevaux arrivent sous forme de carrosseries clouées, simples assemblages de bouts de ferraille. Ici, on soude les morceaux d'acier les uns aux autres, on efface les jointures, on recouvre les raccords. C'est encore un squelette gris, une caisse, qui quitte l'atelier, mais un squelette qui paraît désormais fait d'une seule pièce. La caisse est prête pour les bains chimiques, la peinture, la suite du montage. Je détaille les étapes du travail. Le poste d'entrée de l'atelier est tenu par un pontonnier. Avec son engin, il fait monter chaque carcasse de la cour, accrochée à un filin. Nous sommes en fait au premier étage, une espèce d'entresol dont un des côtés est totalement ouvert. Il la dépose brutalement, en début de chaîne, sur un plateau, qu'il amarre à un des gros crochets qu'on voit avancer lentement au ras du sol, espacé d'un ou deux mètres, et qui constitue la partie émergée de cet engrenage en mouvement permanent qu'on appelle la chaîne. À côté du pontonnier, un homme en blouse bleue surveille le début de chaîne et par moments intervient pour accélérer les opérations. « Allez, vas-y, accroche maintenant !» À plusieurs reprises au cours de la journée, je le verrai à cet endroit, pressant le pontonnier d'engouffrer plus de voitures dans le circuit. On m'apprendra que c'est Antoine, le chef d'équipe. Ouf, il fait beaucoup de bruit, mais ce n'est pas un mauvais gars. Enfin, ce qu'il y a, c'est qu'il a peur de gravier le contremaître. Enfin, tu verras. Le fracas d'arrivée d'une nouvelle carrosserie toutes les 3 ou 4 minutes scande, en fait, le rythme du travail. Une fois accrochée à la chaîne, la carrosserie commence son arc de cercle, passant successivement devant chaque poste de soudure ou d'opération complémentaire. Limage, ponçage, martelage. C'est un mouvement continu, qui paraît lent, oui, au premier coup d'œil. Il faut fixer du regard une voiture précise pour la voir se déplacer, glisser progressivement d'un poste à l'autre. Et comme il n'y a pas d'arrêt, c'est aux ouvriers de se mouvoir pour accompagner la voiture le temps de chaque opération. Chacun a ainsi, pour les gestes qui lui sont impartis, une aire bien définie, quoique aux frontières invisibles. Dès qu'une voiture y entre, il décroche son chalumeau, empoigne son fer à souder, prend son marteau ou sa lime et se met au travail. Quelques chocs, quelques éclairs, les points de soudure sont faits et déjà la voiture est en train de sortir des 3 ou 4 mètres du poste. Et voilà la voiture suivante qui entre dans l'aire d'opération et l'ouvrier recommence. Parfois, s'il a travaillé vite, il lui reste quelques secondes de répit avant qu'une nouvelle voiture se présente. Ou bien il en profite pour souffler un instant, ou bien au contraire, intensifiant son effort, il remonte la chaîne de façon à accumuler un peu d'avance, c'est-à-dire qu'il travaille en amont de son aire normale en même temps que l'ouvrier du poste précédent. Et quand il aura amassé au bout d'une heure ou deux le fabuleux capital de une ou deux minutes d'avance, il le consommera le temps d'une cigarette. Voluptueux rentier qui regarde passer ses carrosseries déjà soudées, les mains dans les poches pendant que les autres travaillent. Bonheur éphémère. La voiture suivante se présente déjà. Il va falloir la travailler à son poste normal cette fois et la course recommence pour gagner un mètre, deux mètres et remonter dans l'histoire d'une cigarette paisible. Si au contraire l'ouvrier travaille trop lentement, il coule. C'est-à-dire qu'il se trouve progressivement déporté en aval de son poste, continuant son opération alors que l'ouvrier suivant a déjà commencé la sienne. Il lui faut alors forcer le rythme pour essayer de remonter. Et le lent glissement des voitures, qui me paraissait si proche de l'immobilité, apparaît aussi implacable que le déferlement d'un torrent qu'on ne parvient pas à endiguer. 50 cm de perdu, 1 mètre, 30 secondes, tout ça en retard sans doute. Cette jointure rebelle, la voiture qui est déjà trop loin et la nouvelle qui est déjà présentée au début normal du poste, qui avance avec sa régularité stupide de masse inerte, qui est là, à moitié chemin, alors qu'on aurait déjà dû finir, et qui va arriver et qui va recommencer et qui sera presque sortie, passée au poste suivant. C'est l'accumulation des retards. C'est ce qu'on appelle couler. Couler, bah oui, parfois c'est aussi angoissant qu'une noyade. Donc là, c'est le poste de soudure. On va avoir une description beaucoup plus précise du travail effectif de Mouloud. Pour l'instant, avec la vie de la chaîne, on a eu les aspects physiques et on va avoir maintenant le ressenti.
Cette vie de la chaîne, je la prendrai par la suite au fil des semaines. En ce premier jour, je la devine à peine. Par l'attention d'un visage, par l'énervement d'un geste, par l'anxiété d'un regard jeté vers la carrosserie qui se présente quand la précédente n'est pas finie. Déjà, en observant les ouvriers l'un après l'autre, je commence à distinguer une diversité dans ce qui, au premier coup d'œil, ressemblait à une mécanique humaine homogène. L'un, mesuré et précis, l'autre, débordé et en sueur, les avances, les retards, les minuscules tactiques de poste, ceux qui posent leurs outils entre chaque voiture et ceux qui les gardent à la main, les décrochages et toujours ce lent glissement implacable de la deux chevaux qui se construit, minute après minute, geste après geste, opération par opération. Le poinçon, les éclairs, les vrilles, le fer brûlé. Son circuit achevé à la fin de l'arc de cercle, la carrosserie est enlevée de son plateau et engloutie dans un tunnel roulant qui l'emporte vers la peinture. Et le fracas d'une nouvelle caisse en début de chaîne annonce sa remplaçante. Dans les interstices de ce glissement gris, j'entrevois une guerre d'usure, de la mort contre la vie et de la vie contre la mort. La mort, l'engrenage de la chaîne, l'imperturbable glissement des voitures, la répétition de gestes identiques, la tâche jamais achevée. Une voiture est-elle faite ? La suivante ne l'est pas. Et elle a déjà pris la place, dessoudée précisément là où on vient de souder, rugueuse précisément à l'endroit où l'on vient de polir. Faite, la soudure ? Non, affaire. Faite pour de bon, cette fois-ci ? Non, affaire à nouveau. Toujours affaire, jamais faite. Comme s'il n'y avait plus de mouvement, ni d'effet des gestes, ni de changement, mais seulement un simulacre absurde de travail qui se déferait aussitôt achevé sous l'effet de quelques malédictions. Et si l'on se disait que rien n'a aucune importance, qu'il suffit de s'habituer à faire les mêmes gestes d'une façon toujours identique, dans un temps toujours identique, en n'aspirant plus qu'à la perfection placide de la machine. Tentation de la mort. Mais la vie se rebiffe et résiste. L'organisme résiste. Les muscles résistent. Les nerfs résistent. Quelque chose dans le corps et dans la tête s'arc-boute contre la répétition et le néant. La vie, un geste plus rapide, un bras qui retombe à contre-temps, un pas plus lent, une bouffée d'irrégularité, un faux mouvement, la remontée, le coulage, la tactique de poste. Tout ce par quoi, dans ce dérisoire carré de résistance contre l'éternité vide qu'est le poste de travail, il y a encore des événements, même minuscules, il y a encore un temps, même monstrueusement étiré. Cette maladresse, ce déplacement superflu, cette accélération soudaine, cette soudure ratée, une main qui s'y reprend à deux fois, cette grimace, ce décrochage, c'est la vie qui s'accroche. Tout ce qui, en chacun des hommes de la chaîne, hurle silencieusement « Je ne suis pas une machine !» Justement, deux postes après celui de Mouloud, un ouvrier, algérien aussi, mais au trait plus marqué, presque asiatique, est en train de couler. Il s'est progressivement déporté vers le poste suivant. Il s'énerve sur ses quatre points de soudure. Je vois ses gestes plus agités, le mouvement rapide du chalumeau. Soudain, il en a assez. Il crie au pontonnier. « Oh, moins vite, là ! Arrête un peu les caisses, ça va pas !» Et il décroche le plateau de la voiture sur laquelle il travaille, l'immobilisant ainsi jusqu'au crochet suivant qui la reprendra quelques secondes après. Les ouvriers des postes précédents décrochent à leur tour pour éviter un carambolage des caisses. On souffle un instant. Cela fait un trou de quelques mètres sur la chaîne, un espacement un peu plus grand que les autres. Mais l'Algérien a remonté son retard. Cette fois, Antoine, le chef d'équipe, ne dit rien. Il a bourré à fond depuis une heure et il a trois ou quatre voitures d'avance. Mais d'autres fois, il intervient, harcèle l'ouvrier qui coule, l'empêche de décrocher ou, si c'est déjà fait, accourt raccrocher le plateau à sa place initiale. Il a fallu cet incident pour que je réalise à quel point les temps sont serrés. Pourtant, la marche des voitures paraît lente et, en général, il n'y a pas de précipitation apparente dans les gestes des ouvriers.
Oui, vous voyez à la fois la description précise et puis quand même Robert Linhart, bah oui, c'est un philosophe et c'est un sociologue. Donc quand il étudie le travail à l'usine, non seulement il le décrit, mais en effet il l'analyse et il rend bien compte de ce qui se passe effectivement dans le travail des postes, mais aussi sur cette espèce de philosophie que peut-être les ouvriers ont chacun pour eux-mêmes. Alors, Robert, il a 24 ans. Hein. Il a 24 ans, il sort en effet de Normal Sup et il retourne travailler en usine. Enfin, non, on ne va pas dire qu'il retourne, il y va travailler en usine puisque, en effet, il n'avait jamais vu ça. Et il retourne par contre là nous décrire le poste de Mouloud. Vous allez voir, comme on dit familièrement, c'est pas du gâteau. Mouloud ne dit toujours rien. Je le regarde travailler. Ça n'a pas l'air trop difficile. Sur chaque carrosserie qui arrive, les parties métalliques qui constituent la courbure au-dessus de la fenêtre avant sont juxtaposées et clouées, mais laissent apparaître un interstice. Le travail de Mouloud est de faire disparaître cet interstice. Il prend de la main gauche un bâton d'une matière brillante, c'est l'étain, de la main droite un chalumeau, coup de flamme. Une partie du bâton fond en un petit tas de matière molle sur la jointure des plaques de tôle. Mouloud étend soigneusement cette matière à l'aide d'une palette de bois qu'il a saisie aussitôt après avoir reposé le chalumeau. La fissure disparaît. La partie métallique, au-dessus de la fenêtre, semble ne plus se composer que d'un seul tenant. Mouloud a accompagné la voiture sur 2 mètres. Il l'abandonne, le travail fait, et revient à son poste, à son point de station, attendre la suivante. Mouloud travaille assez rapidement pour avoir un battement de quelques secondes entre chaque voiture, mais il n'en profite pas pour remonter. Il préfère attendre. Voici une nouvelle carrosserie. Bâton brillant, coup de chalumeau, coup de palette, quelques coups sur la gauche, sur la droite, le bas, le haut. Mouloud marche en travaillant sur la voiture. Ben oui, un dernier frottement de palette, la soudure est lisse. Mouloud revient vers moi. Une nouvelle carrosserie s'avance. Non, ça n'a pas l'air trop difficile. Pourquoi ne me laisse-t-il pas essayer ? La chaîne s'arrête. Les ouvriers sortent des casse-croûtes. C'est la pause, me dit le Mouloud. Il est 8h15. Seulement ? Mais il m'a semblé que des heures s'écoulaient dans cet atelier gris, pris dans le glissement monotone des carrosseries et des éclairs bafards des chalumeaux. Cette interminable dérive de tôle, de ferraille en dehors du temps, 1h15 s'est écoulée seulement. Mouloud me propose de partager le morceau de pain qu'il a soigneusement défait d'un empaquetage de papier journal. « Non merci, j'ai pas faim. Tu viens d'où ?»« De Paris. C'est ton premier boulot chez Citroën ?» Oui, et c'est même mon premier boulot en usine. Ah ouais? Moi, je suis Kabyle. J'ai la femme et les enfants là-bas, au pays. Il sort son portefeuille, montre une photo de famille jaunie. Je lui dis que je connais l'Algérie. Nous parlons des routes sinueuses de la Grande Kabylie, des falaises abruptes de la Petite Kabylie qui tombent dans la mer, près de Kolo. Et les 10 minutes sont vite passées. La chaîne repart. Mouloud empoigne le chalumeau et se dirige vers la première carrosserie qui s'avance. Nous continuons à parler par intermittence entre 2 voitures. « Pour le moment, tu n'as qu'à regarder, » me dit Mouloud. « Tu vois, c'est la soudure à l'étain. Donc ton bâton, c'est l'étain. Il faut l'attraper. Il faut aussi attraper le coup de main. Si tu mets trop d'étain, ça fait une bosse sur la carrosserie, ça ne va pas. Si tu n'en mets pas assez d'étain, ça ne recouvre pas le trou et ça ne va pas non plus. Alors, regarde comment je fais et tu essaieras cet après-midi. Ouf. Tu commenceras toujours bien assez tôt. » Eh oui, bien assez tôt. Et alors, effectivement, l'après-midi, c'est Robert. Mais pas comme ça. Et puis, mets les gants, là, tu vas te brûler. Non, attention au chalumeau. Passe. C'est la 10e voiture sur laquelle je m'escrime en vain. Mouloud a beau faire, m'avertir, me guider la main, me passer l'étain, me tenir le chalumeau. Je n'y arrive pas. Là, j'inonde le métal d'étain pour avoir tenu le chalumeau trop près du bâton, trop longtemps, et il ne reste plus à Mouloud qu'à racler le tout et à refaire l'opération, précipitamment quand même, avant que la 2e voiture derrière arrive, et avant que celle-ci soit sortie de sa zone. Là, je ne mets pas assez d'étain, et au premier coup de palette, la fissure réapparaît. Bon, et quand par miracle j'ai fait couler une quantité d'étain à peu près convenable, je l'étends avec tellement de maladresse, cette maudite palette, je l'étends avec tant de maladresse que la soudure prend des allures de montagne russe et qu'il y a là un infâme bosselage, là où Mouloud réalisait une courbure parfaitement lisse. Et puis je m'embrouille dans l'ordre des opérations. Il faut mettre les gants pour le coup de chalumeau, les enlever pour le coup de palette, ne pas toucher l'étain brûlant à la main, tenir le bâton de la main gauche, le chalumeau de la main droite, la palette de la main droite, les gants qu'on avait enlevés, ils sont toujours là avec l'étain, enfin bon. Ça a l'air évident quand Mouloud le fait, en gestes précis, coordonnés, successifs. Moi, j'y arrive pas, c'est la panique. 10 fois, je suis sur le point de me brûler, et en fait, c'est Mouloud, d'un geste rapide, qui écarte la flamme trop proche. Chacune de mes soudures est à refaire. Mouloud me reprend les instruments, rattrape de justesse, 3 mètres plus loin. Je suis en sueur. Mouloud commence à se fatiguer parce que son rythme est brisé. Il ne manifeste aucune impatience. Continue à faire le double travail, guider le mien, puis le refaire, mais quand même nous coulons. Nous glissons inéluctablement vers le poste suivant. Nous commençons la nouvelle carrosserie avec 1 mètre de retard, puis 2. Nous l'achevons, ou plutôt Mouloud l'achève, en hâte, 3-4 mètres plus loin. Le câble du chalumeau tendu presque au maximum au milieu des instruments du poste suivant. Plus j'essaye de faire vite, plus c'est la panique. Je fais couler de l'étain partout, je fais tomber ma palette, je me retourne en menaçant Mouloud de la flamme de mon chalumeau qui l'évite de justesse. Non, non, tiens, regarde. Mais rien à faire, mes doigts sont rétifs, ma maladresse incurable, je m'épuise, mes bras tremblent, je presse trop fort avec la palette, je ne maîtrise pas mes mains, des gouttes de sueur commencent à me brouiller la vue. L'allure des carrosseries me paraît déchaînée. Rien à faire pour remonter. Mouloud rattrape avec de plus en plus de mal. Bon, écoute, ça sert à rien de s'affoler comme ça. Tu vas arrêter un peu et à nouveau regarder ce que je fais. Mouloud reprend les instruments et retrouve le rythme régulier de son travail, un peu plus rapide qu'auparavant pour remonter progressivement le retard que nous avons pris. Quelques centimètres à chaque carrosserie. Au bout d'une dizaine, il est revenu à sa place normale. Et moi, je reprends mon souffle en le regardant faire. Ses gestes ont l'air si naturels. Alors, qu'ont mes mains, les miennes, là? Qu'est-ce qu'elles ont, ces mains? Pourquoi ses bras et ses doigts ne savent-ils pas travailler comme les siens? Une carrosserie est un chalumeau, coup de palette, à l'endroit de la courbure métallique. Ben voilà, ça y est, la fente est recouverte. Il y a maintenant une surface parfaitement lisse. Pourquoi sait-il travailler et moi, pas? La pause de 3h15, Mouloud me la sacrifie. Les autres se dégourdissent les jambes. Lui, il revient avec moi devant la voiture qui est là, qui ne bouge pas. Bah oui, c'est plus facile. Il me montre à quelle distance il faut tenir le chalumeau, comment poser les doigts, comment prendre la palette, comment appuyer le pouce pour envelopper l'arrondi du métal. Au milieu, il faut presser légèrement pour ne pas chasser l'étain, puis progressivement et appuyer de plus en plus fort, mais en s'éloignant, pour obtenir le dégradé. La palette, d'abord vers la gauche, puis vers la droite. Un petit coup vers le haut, un petit coup vers le bas. Allez, vas-y, à toi maintenant. Il guide ma main, il dispose mes doigts contre le bois, comme ça. Bon, ça va aller? Ben non. Fin de la pause, reprise, tintamarre de la chaîne, une nouvelle carrosserie avance, lente et menaçante. Je refais les gestes, vite le chalumeau. Ah merde, j'oubliais les gants. Et où elle éteint? Mais bon sang, mais qu'est-ce qu'elle avance, cette carrosserie? Elle ne peut pas s'arrêter. Bon, un coup de flamme, merde, trop d'étain. Merde, rattraper ça à la palette, merde, il y en a partout. Mouloud me l'enlève des mains, encore un essai, non ça va pas, je suis consternée. Bon, je vais laisser à Mouloud le faire. Une nouvelle fois, je suis sur le bord, impuissant. La chaîne m'a rejetée. Pourtant, elle paraissait avancer si lentement. Mouloud renonce à me confier à nouveau les outils. Ça ira mieux demain, faut pas t'en faire. Nous parlons de son propre commencement à ce poste il y a longtemps. Mais il avait pris le coup de main assez vite, mais c'est vrai, au début, c'était pas commode. Bon, et puis alors évidemment, maintenant, il a une vieille expérience et la soudure à l'étain, ça le fait rire, quoi. Au fait, soudeur, j'ai entendu dire que c'est un métier. Quelle qualification il a, Mouloud? Je lui demande comment Citroën le classifie. M2, répond-il, laconique. Manœuvre. Manœuvre. Bah oui, chez Citroën, un soudeur qualifié est manœuvre. On verra ça tout à l'heure. On va vous laisser 2 minutes et on va aller prendre l'air à Luna Park avec un chanteur qui lui disait dans sa chanson qu'il vissait des boulons. Et bah, quand il ne visse pas les boulons, il va à Luna Park. Bonne balade, à tout de suite.
Dans mon usine de puteaux, on peut dire que j'ai le fin boulot. Ça fait bien 365 jours de long que je visse toujours le même sacré petit boulon. Mais cela ne m'empêche pas de chanter. Dès que j'ai ma petite heure de liberté, hidlil, 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 je vais tout droit à Luna Park, dans le jour cru des lampes d'arc. Sur la chenille, je vois les filles, je vois les filles, l'air de soin, soin, pilou, en pilou, elles pick-up, chantent comme moi. Hidlil, 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 hey, hidlil, 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 hidlil. Le travail c'est ahurissant, pour le corps c'est bien salissant. Quand je touche ma paye vers la fin du mois, je sais qu'à plutôt y a des gars plus riches que moi. Mais cela ne m'empêche pas de chanter hidlil, hidlil, hidlil. Luna Park est ma réserve de gaieté. Hidlil, hidlil, hidlil. À tous les stands, je suis salué des patrons et des habitués. Garçons et filles, c'est ma famille. Partout ailleurs, je ne suis rien à Luna Park. Je suis quelqu'un, vive Luna Park et vive la joie. Falling later, 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 love to go.
Ah oui, à Luna Park, Yves Montand, il fait des claquettes. Et chez Citroën, il n'y en a pas beaucoup qui font des claquettes. Et chez Citroën, on va nous expliquer justement comment sont faites les classifications, puisqu'on vient de laisser Mouloud qui disait qu'il était manœuvre, alors qu'il était soudeur qualifié. Allons-y.
Je m'étonne. Il n'est que manœuvre. Ce n'est quand même pas si facile, la soudure à l'état. Et moi qui ne sais rien faire, on m'a embauché comme ouvrier spécialisé. OS2, dit le contrat. OS, dans la hiérarchie, n'est pas grand-chose, c'est pourtant au-dessus de manœuvre. Les principes de qualification de classification de Citroën. Quelques jours plus tard, un autre ouvrier me les donnera. Il y a 6 catégories d'ouvriers non qualifiés. De bas en haut, 3 catégories de manœuvre, M1, M2, M3, 3 catégories d'ouvriers spécialisés, OS1, OS2, OS3. Quant à la répartition, elle se fait d'une façon tout à fait simple, elle est raciste. Les Noirs sont M1, tout en bas de l'échelle, les Arabes sont M2 ou M3, les Espagnols, les Portugais ou les autres immigrés européens sont en général OS1, les Français sont d'office OS2. Et on devient OS3 à la tête du client, selon le bon vouloir des chefs. Voilà pourquoi je suis ouvrier spécialisé et Mouloud manœuvre. Voilà pourquoi je gagne quelques centimes de plus par heure, quoique je sois incapable de faire son travail. Et après, on ira faire des statistiques subtiles sur la grille des classifications, comme disent les spécialistes. Voilà. Mouloud vient de finir sa dernière voiture, la 148e de la journée. Il est 6h moins le quart. La chaîne s'immobilise. Le bruit cesse. « Salut, me dit Mouloud, à demain. »« T'en fais pas, va, ça ira mieux. » Il file vers le vestiaire. Je reste un instant dans l'atelier qui se vide, la tête bourdonnante, les jambes incertaines. Quand je m'engage dans l'escalier, bon dernier, il n'y a plus personne en vue. Les lumières se sont éteintes et les carrosseries immobiles, masses sombres, attendent l'aube de la reprise. Je rentre, éreinté et anxieux. Pourquoi tous mes membres sont-ils douloureux? Pourquoi ai-je mal à l'épaule, aux cuisses? Le chalumeau et la palette n'étaient pourtant pas si lourds à porter. Sans doute la répétition de mouvements identiques et la tension pour maîtriser ma maladresse et d'être resté debout tout ce temps, 10 heures. Mais les autres le font aussi. Sont-ils aussi épuisés? Je pense. Inaptitude de l'intellectuel à l'effort physique. Naïveté. Il ne s'agit pas seulement de l'effort physique. Le premier jour d'usine est terrifiant pour tout le monde. Beaucoup m'en parleront ensuite, souvent avec angoisse. Quel esprit, quel corps peut accepter sans un mouvement de révolte de s'asservir à ce rythme anéantissant contre nature de la chaîne? L'insulte et l'usure de la chaîne, tous l'éprouvent avec violence. L'ouvrier et le paysan, l'intellectuel et le manuel, l'immigré et le français. Il n'est pas rare de voir un nouvel embauché prendre son compte le soir même du premier jour, affolé par le bruit, les éclairs, le monstrueux étirement du temps, la dureté du travail indéfiniment répété, l'autoritarisme des chefs et la sécheresse des ordres, la morne atmosphère de prison qui glace l'atelier. Des mois et des années là-dedans, comment l'imaginer ? Non, plutôt la fuite, la misère, l'incertitude des petits boulots, n'importe quoi. Et moi, l'établi, est-ce que je vais y arriver ? Que se passera-t-il si demain je ne parviens toujours pas à faire ces soudures ? Me mettront-ils à la porte ? Quelle dérision ! Une journée et demie d'établissement et la porte pour incapacité ? Et les autres, ceux qui n'ont pas de diplôme et qui ne sont ni costauds ni habiles de leurs mains, comment font-ils pour gagner leur vie ? La nuit, je n'arrive pas à trouver le sommeil. Dès que je ferme les yeux, je vois défiler les deux chevaux, procession sinistre de carrosserie grise. Je revois la revue porno de Sadoc au milieu des sandwichs et des bidons d'huile et de la ferraille. Tout est laid. Et ces deux chevaux, cette file infinie de deux chevaux, la sonnerie du réveil, déjà 6 heures, je suis courbattue, aussi épuisée qu'hier soir.
Oui, donc le jour, on travaille dans les deux chevaux et la nuit, on rêve des deux chevaux. C'est en effet l'épuisement de la chaîne, l'épuisement du travail à la chaîne, l'épuisement du travailleur qui est là, asservi à sa chaîne. Et il va continuer, Robert, bien sûr, il continue, il retourne le lendemain à sa chaîne. Et même s'il ne devient pas un soudeur très efficace, on va voir qu'il reste chez Citroën. Je reprends donc la lecture. J'avais tort de m'en faire. Il n'est pas question de me mettre à la porte. Deux bras à 4 francs de l'heure, Citroën en aura bien l'usage, même s'ils ne sont pas fameux. Inapte à la soudure à l'étain, qu'à cela ne tienne. Il y a tant de postes équivalents, tant de boulons à serrer, tant d'objets à transporter. Noir ou arabe, je n'aurais peut-être pas droit à un autre essai. On me collerait un balai dans les mains ou des chariots surchargés à pousser. Mais je suis français et je suis OS. Alors même maladroit, je vais sûrement pouvoir faire autre chose que pousse-balai. À 7h du matin, au démarrage de la chaîne, Mouloud m'a fait faire encore un essai. À 7h30, il avait définitivement renoncé. Ça fait rien, va. Ils vont bien trouver autre chose. Et puis tu y gagneras peut-être. Tu sais, ici, ce n'est pas un bon poste. L'étain, ça rend malade. Moi, tous les mois, on me fait une prise de sang. Celui qui était là avant moi, ils l'ont enlevé parce qu'il commençait à aller mal. Mais ils ne lui ont pas reconnu de maladie professionnelle. Ben non, ça, non. Ils l'ont mis ailleurs et c'est tout. Jamais ils ne voudront reconnaître qu'il y a une maladie professionnelle de l'étain. Alors, pourquoi les prises de sang ? Bon, ben moi, ils me changeront de poste quand je cracherai des bouts de métal. Enfin, t'en fais pas, tu verras, tu perdras pas grand-chose. Vers 8 heures, le contremaître, Gravier, fait son apparition. Alors, Mouloud, il y arrive ? Gravier est grand et même baraqué, plutôt genre beau gosse, avec un rien de vulgarité dans la voix, histoire de marquer son côté ancien ouvrier. Mais il est brutal et on le craint. Il y arrive, il peut continuer le poste tout seul, ça je suis pas sûre, dit Mouloud. Enfin chef, je pense qu'il va y arriver. Mouloud est embarrassé, il ne veut pas me faire de tort. Il ajoute à tout hasard, il fait ce qu'il peut, enfin c'est pas facile hein, au début. Alors Gravier le coupe et tranche. Bon, laisse tomber. Et se tournant vers moi, allez, suis-moi. Escalier, couloir. Couloirs encombrés, containers, terrifiant vacarme des presses. Allez où foncent les caristes. Escaliers encore, des tours, bouffées, de froid, de chaud. Fenwick, salles encombrées, escaliers. Puis une salle qui me paraît immense. Une explosion de bruit strident, de couleurs criardes. Des postes partout, une chaîne interminable qui court sur le côté le plus allongé d'un vaste rectangle et d'autres chaînes plus petites, perpendiculaires, transversales, obliques, avec des petits établis et des gens en train de gainer, de percer, de tailler, de visser. Un mouvement d'éléments dans tous les sens, par terre, à hauteur d'homme, au plafond. Et le défilé des voitures, les caisses colorées, cette fois brillantes, de couleurs vives. Ces couleurs me frappent. Un choc, après la grisaille des tôles crues de l'atelier de soudure, et puis aussi le choc des bruits, beaucoup plus divers, totalement discordants, des chocs, oui, mais des chocs désagréables, une lumière artificielle, un vacarme total, différent de celui d'où je viens. Chez Gravier, il n'y avait que du métal. Ici, c'est autre chose. Il y a les ateliers de finition, où les voitures arrivent peintes et même rutilantes, et on dit ici qu'on les habille. Donc en fait, on recouvre l'intérieur, on monte les sièges, on monte les portes, on monte les chromes, on pose les blocs moteurs sur les châssis, on met les vitres en place, on monte les roues. Et tout cela, bah oui, effectivement, je le saisis au passage, toutes ces tâches sont dans le même atelier, sur des chaînes différentes, qui arrivent à la fin à la voiture complète. Mais pas le temps de contempler. Hein. Je cours derrière la blouse blanche de Gravier. Nous entrons dans un bureau, une espèce de grande cage vitrée centrale. Et un autre contremaître est là, assis derrière une table. Un petit gros, à moitié chauve. Gravier me présente en deux mots et il file, il me laisse. Attends là. L'autre s'est replongé dans ses papiers. Ah ben oui, c'est vrai, il tutoie tous les ouvriers. Pourquoi ? Pourquoi l'est-on cassant ? Pourquoi ? Ben, c'est l'autorité qui veut ça, c'est le système. Un petit bout du système Citroën. Vous ignorez en passant, donner des ordres secs, dire de l'un à l'autre « Mets-le donc à ce poste !» Les mille façons de vous répéter à chaque instant de la journée que vous êtes rien. Moins qu'un accessoire de voiture, moins qu'un crochet de chaîne. Rien. Donc j'attends, debout. Bouf, personne ne m'a dit de m'asseoir. Un ouvrier assis pendant les heures de travail, non mais attendez, ça serait un comble. On tolère déjà qu'il ne fasse rien, là, entre deux postes, ça lui fera bien 5 ou 6 francs de paye pour rien, alors quand même, vous imaginez pas qu'on va le faire asseoir. J'attends, sans rien dire, sans bouger. Je suis quand même un peu gênée de mon échec à l'étain. Je tiens pas à me faire remarquer. Le contremaître, lui, cravaté, il est dans ses papiers. Alors lui, c'est Huguet, enfin Monsieur Huguet, tiré à quatre épingles, très homme d'affaires, oui, avec sa cravate, son veston sous la blouse blanche. Et c'est pas n'importe qui, Huguet. Il règne sur le 85, la grande chaîne, le plus grand atelier de l'usine de Choisy. En fait, il a plusieurs centaines de personnes sous ses ordres. En ce moment, il me présente un front dégarni, rose et luisant. Il fait l'important, il fait quelque chose d'important. Oui, les effectifs. C'est important, les effectifs. Savoir qui est là, qui n'est pas là, qui est arrivé à l'horloge pointeuse, à l'heure ou avec 2 minutes de retard. Parce que 2 minutes de retard, vous avez beau vous essouffler, enfiler votre tenue de travail à toute vitesse, traverser le vestiaire comme une flèche, arriver à votre poste haletant en même temps que les autres, avant que la chaîne se mette en route, vous commencez votre travail exactement avec les autres, mais quand même, sur votre carton de pointage, il y a 2 minutes de retard. Donc le carton, il a été enlevé par le gardien et il a atterri chez Monsieur Huguet. Il a atterri là avec ses ineffaçables 2 minutes. Va falloir vous expliquer. Non, enfin la première fois, c'est pas la peine. Mais la deuxième fois, vous avez un avertissement. Et la troisième fois, éventuellement, une mise à pied. Citroën n'a pas perdu une seconde. Et Citroën n'a pas un milliardième de seconde à perdre avec vous. Et pas un centime à perdre avec vous. Alors d'abord, la prime saute. Et ensuite, ben oui, si vous ne vous y faites pas, c'est la discipline. Hein, la discipline, qu'est-ce que vous faites de la discipline ? À quoi servirait un contremaître si ce n'était pas, en priorité absolue, à faire respecter la discipline ? Alors voilà. Là, il en est à Gonsalves. Gonsalves Antonio, bah oui, il avait déjà un retard au mois-ci, enfin ce mois-ci. Alors, une mise en pied ? Non, non, non. Bon, on va voir. Alors, en fait, passons. Ah bah oui, passons. Qu'est-ce que vous faites là, vous ? Ah oui, vérifiez maintenant peut-être, avant que je vous voie, que les fournitures commandées sont bien arrivées. Voir si le problème du stockage des moteurs est réglé. Remettre le rapport au bureau des méthodes sur le chronométrage des temps en sellerie. Eh bien oui, c'est important tout ça. Alors moi, pendant ce temps-là, j'attends. Oui, j'attends. Très bien, Monsieur Huguet a répondu avec déférence une blouse bleue qui s'était approchée. Et à moi, sèchement, suis-moi. Nous ressortons. Dupré, la blouse bleue, c'est un chef d'équipe. Il est pressé. Il me confie à un régleur, cascade hiérarchique. Montre-lui les vitres, dit la blouse bleue au régleur. Suis-moi, dit le régleur. Le régleur, c'est un tout petit chef, le plus petit, mais juste au-dessus de l'ouvrier quand même. On l'appelle comme ça parce qu'il est censé régler les machines. En fait, il fait de l'encadrement. Et il lui arrive même de remplacer quelqu'un sur un poste de travail s'il y a un pépin ou une absence provisoire. Il n'a pas de blouse, mais une combinaison de travail. Et il passe une bonne partie de son temps à se promener, à regarder ce qui se passe. C'est toujours ça de prix. Bon, là maintenant, terminus, une petite table à côté de la chaîne où tournent les portières que des ouvriers habillent. Vitres, serrures, tiges chromées. Sur la table, il y a une pile de vitres. Oui, je vais travailler aux vitres. Un des ouvriers de la chaîne s'y approvisionne à chaque passage de portière et fixe aussitôt la vitre à la portière en mouvement. Mon travail consistera à préparer les vitres, c'est-à-dire à les gainer de caoutchouc. C'est un poste immobile dont la cadence dépend évidemment de celle de la chaîne qu'il fournit. J'ai une espèce de poudre comme du talc pour éviter que le caoutchouc glisse. J'ai un maillet. Il faut viser correctement pour que la forme de caoutchouc s'emboîte exactement sur la vitre. Si on ne la pose pas bien dès le premier coup, ça fait des plis, des étirements, le caoutchouc se défait, tout est à refaire. Le voisin me dit, regarde, deux vitres, voilà, une démonstration, encore une autre. Ben oui, une démonstration sur deux vitres. Il me demande si j'ai compris. Oui. Il me dit que le poste est au boni, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse au moins 320 vitres par jour. Sur quoi il reprend son poste juste à côté. Tout de suite désagréable, c'est le contact de la poudre et du caoutchouc contre les doigts, et puis cette espèce d'odeur fade. Pendant ce temps-là, je calcule. 320 vitres par jour, ça fait 32 vitres par heure, un peu moins de 2 minutes par vitre. Ah oui, d'accord. Combien de fois par mois cette infime besogne qui m'est promise à l'infini? Bon, arrêtons de penser, il y a urgence, la provision de vitres baisse à vue d'œil et l'ouvrier de la chaîne qui vient se fournir sur la pile commence à me lancer des regards inquiets. Je commence. Et au bout d'une demi-heure, ma conviction est faite. Je n'ai pas plus d'avenir dans le gainage des vitres que dans la soudure à l'étain. Jamais je n'aurais imaginé combien de pièges peuvent réserver un bout de caoutchouc, une glace de sécurité et un petit tas de poudre blanche. Alors, j'ai vite fait de recouvrir table, vitre, ma veste, mon visage avec cette fichue poudre. Et sur trois vitres, j'en ai raté deux, à force de m'y reprendre. J'en ai fait six en une demi-heure, au lieu de 16, qui constitue le minimum. Le stock de réserve est presque épuisé. Je m'éponge le front quand survient un secours inattendu. Alors, on s'arrête une seconde sur le secours inattendu. En fait, on est dans un grand atelier, comme Robert nous l'a expliqué. Et donc, il y a plein de postes de travail, les uns à côté des autres. Lui, il est aux vitres. Et on nous l'a dit, à côté, il y a les serrures. Un grand gaillard, à l'allure de cow-boy, jeans et col roulé, arrive en sifflotant. Il arrive sur la chaîne des portières, à quelques mètres de ma table. Il faut dire qu'il a quitté son poste aux serrures et, sans mot dire, il se met à gainer mes vitres. En 10 minutes, il en a fait 6 ou 7. Et puis, c'est la pause. Alors, je le remercie. C'est rien, c'est rien. Je m'étonne qu'il ait pu laisser son poste. Ben oui, il a laissé son poste. Il y a Pavel et Stéphane. Explication, en fait, ils sont 3 Yougoslaves qui occupent des postes successifs dans l'ensemble voisin qui constitue le montage des serrures. Le montage des serrures complètes, c'est un travail délicat avec des tas de petites vis à placer dans les coins. Mais ils sont si adroits tous les trois et ils travaillent si vite qu'ils parviennent à recomposer les 3 postes en 2. L'un d'entre eux peut ainsi être libéré par roulement pour aller fumer ou pour aller tranquillement aux toilettes ou pour aller faire la conversation aux filles à la céderie. C'est grâce à ce système que Georges, ben oui, Georges, c'est le nom de mon sauveur, a pu me venir en aide. Et le chef ferme les yeux sur cet arrangement parce que les 3 Yougoslaves, c'est une petite équipe qui, spontanément, gère tout sur cette partie d'atelier, gère tous les ennuis sur ce tronçon de la chaîne des portières, le carrousel des portières, comme on dit. Alors évidemment, la maîtrise a bien dû caresser l'idée de supprimer un des 3 postes, puisque les Yougoslaves parviennent à les comprimer en 2. Mais il suffit de les regarder travailler pour se rendre compte que personne ne tiendrait un rythme pareil normalement. Alors voilà, ils continuent et ils ont leur petite république yougoslave à eux 3. Georges, je le verrai vite, jouit d'un statut de chef de bande. non seulement dans le petit groupe des Trois du Carousel, mais aussi dans la communauté yougoslave de l'usine. Elle est nombreuse. Citroën concentre les nationalités, en fait, par boîte. À Choisy, il y a les Yougoslaves, à Javel, les Turcs. On engloutit les collectivités entières pour pouvoir les encadrer en bloc, les quadriller, les espionner. On dissémine des interprètes maison. On combine la surveillance à l'usine et au foyer. On facilite la pénétration des redoutables polices politiques, même les flics espagnols, les flics marocains, les indicateurs de la PIDE et portugaises. Et à Javel, les Turcs, par exemple, arrivent par villages entiers, trimballant intact leur hiérarchie féodale. Bonne affaire pour Citroën, le féodalisme. Le chef de village entre dans l'usine le matin, à la tête de son groupe de 20 ou 25 bonshommes. On lui porte sa serviette. Et même à la fin de la journée, il n'aura pas forcément touché les outils. Il est OS comme les autres sur le papier. En fait, il surveille l'équipe, et ça avec la bénédiction de Citroën. Et même, on raconte que les autres Turcs, sur leur salaire, lui versent une redevance. Citroën, c'est le vertigineux tourbillon des nations, des cultures, des sociétés détruites, éclatées, ravagées, que la misère et l'extension mondiale du capitalisme ont jeté en miettes dans les multiples canaux de drainage de la force de travail. Alors oui, j'ai des camarades turcs, yougoslaves, algériens, marocains, espagnols, portugais, sénégalais, et de tous ces camarades, je n'ai connu des bribes de leur histoire. Qui pourra jamais raconter en entier cette longue marche qui les a amenés là, vers des emplois, de manœuvres, d'OS? Qui les a amenés dans leur pays vers des vampires recruteurs, des laquais, des multinationales venus écumer la misère de ces lointains villages et les diriger vers des bureaucrates, des trafiquants d'autorisation en tout genre, des passeurs, et oui, des trafiquants de papier vers même des bateaux surchargés, des camions brinque-ballants, des cols passés à l'aube frileuse et dans l'angoisse des frontières. Qui dénoncera ces négriers et ces marchands de sommeil? C'est intéressant, on est en 1968 et ce qu'on dénonce maintenant dans le bazar de la traversée de la Méditerranée, bah oui, Robert Linhart le dénonce dans l'organisation Citroën du recrutement de la main-d'œuvre. Citroën, je reprends, Citroën qui vous a importé, lambeau de société, attaché vif, eh oui, c'est ça, c'est vrai. Et ce que vous conservez d'organisation nationale, c'est au service de cette multinationale installée à Javel ou à Choisy. Et c'est quand même un moyen de résister, d'exister, même si on a été rejeté de sa communauté d'origine. Certains immigrés continuent à exercer parmi leurs camarades une vraie autorité qui double celle du patron, mais quelquefois aussi s'y oppose et la contrebalance. Une autorité spontanée d'une personnalité qui, plus forte, peut tenir la maîtrise en respect, jusqu'à un point de résistance culturelle, un genre de résistance du lettré de la chaîne, par exemple, quand un écrivain public peut, à la sortie de l'usine, après ses 10 heures de chaîne, trouver l'énergie de calligraphier les lettres de ses camarades, éventuellement analphabètes, peut transmettre l'héritage des luttes passées, par exemple avec le FLN algérien qui a laissé des habitudes. Je ne saurais jamais comment, pourquoi, les Yougoslaves sont là, je ne saurais jamais comment ils sont arrivés, mais ils ont leurs habitudes, ils ont effectivement leur vie qui s'organise là, chez Citroën, et qui résiste à l'avilissement du travail à la chaîne. Souriant, le camarade Georges me donne encore quelques conseils pour une manipulation plus rationnelle de mon fatras de vitres et de caoutchouc. Eh bien, on va se quitter bientôt avec Georges, avec Robert. Alors Robert, je vous rassure, hein, il n'a pas fini sa vie aux vitres. Il a quand même fait encore quelques mois chez Citroën. Comme je le disais tout à l'heure, il a organisé une grève parce que Citroën ne voulait pas appliquer les accords de Grenelle. Ils sont descendus de 10 heures par jour à 9h15 par jour, mais en réduisant, bien sûr, le nombre de temps par poste. Donc, finalement, ça ne pouvait pas marcher comme ça. Donc, les ouvriers ont résisté. Robert Linhart a organisé une grève. Cette grève a eu du succès. Et puis, lui, finalement, il a été travailler au siège. Les sièges de deux chevaux, il y en a peut-être parmi vous qui s'en souviennent, ils étaient accrochés avec des caoutchoucs. On pouvait les sortir de la voiture et se faire des petits canapés pour aller pique-niquer dans la campagne. Alors, les sièges de deux chevaux, ben, Robert Linhart les connaît bien. Et on va le quitter, lui, pour retrouver la semaine prochaine Robert Picamilio, qui va nous parler des chroniques de ses années d'usine sur un autre ton et avec un autre style. Au revoir, à bientôt.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda Malaika.